Musicoscope, focus sur la musique contemporaine, les premiers et troisièmes lundis du mois, sur Radio Campus Angers, 103 FM.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Musicoscope, l'émission où on découvre et on tente de comprendre ce qui fait la beauté de la musique contemporaine. Je suis Camille et je vais vous accompagner aujourd'hui sur des chemins pleins de surprises, de ruptures et d'asymétries. Autant d'éléments souvent explorés dans le répertoire de la musique contemporaine. Et pour nous aider à rentrer dans cet art de l'inattendu, nous allons aujourd'hui nous pencher sur la pièce « Subito » de Witold Lutoslawski. Mais pour commencer, place à l'écoute. Avant de vous en dire plus et pour ne pas risquer de vous gâcher la surprise, écoutons la première moitié de cette œuvre. Vous venez d'entendre le début de Subito de Witold Lutoslawski. Composé en 1992 à l'occasion d'un concours de violon, la pièce Subito porte bien son nom et toute désignée pour parler des notions de contraste et de surprise en musique. L'exploration de la surprise et de la rupture sont des fondamentaux dans l'histoire de la musique et le répertoire contemporain n'y échappe pas. Historiquement, la musique a toujours eu différentes fonctions et donc différents codes d'écriture qui en découlent. Par exemple, la musique de cour à l'époque classique se veut généralement quelque chose d'assez structuré, d'assez mesuré et sans à-coups, tout comme la musique de danse qui doit garantir une certaine symétrie et une régularité permettant aux danseurs de musique ancienne de poser leurs pas sur la musique sans difficulté. Pourtant, la musique n'a pas que des fonctions d'agrément et les compositeurs ne s'y trompent pas. Écrire de la musique, c'est aussi raconter quelque chose, soutenir un propos, véhiculer une émotion. Et tout ça vient généralement avec son lot de chaos et de rebondissements. C'est alors qu'intervient dans la musique le rôle de la rupture, de la surprise et des contrastes. comme dans un bon livre ou un bon film, on va chercher à maintenir l'auditeur en haleine, à lui faire se demander « mais que va-t-il se passer ensuite ?» Et pour ça, un des premiers procédés utilisés ici par Lutoslavski, c'est l'utilisation de bribes musicales très courtes, entre lesquelles il intercale des morceaux de silence. À l'écran, on appellerait ça un film à suspense. La déstructuration des mélodies a été un grand terrain de jeu pour un certain nombre de compositeurs contemporains. Ici, on aurait envie que cette mélodie continue, que Lutoslavski développe son idée plus longuement. Pourtant, il nous maintient dans un état d'attente avec de petits morceaux de phrases dont on ne peut anticiper ni la longueur, ni quand ils viendront à nos oreilles. Dès le début de la pièce, Lutoslavski pose pour son auditeur l'obligation d'une écoute active, attentive. On se doit de rester aux aguets car le son peut arriver à n'importe quel moment et sous n'importe quelle forme. Pour autant, cet état d'alerte de l'auditeur ne peut pas durer éternellement et pour que les surprises fonctionnent, il faut que celui qui écoute soit d'abord en confiance. Passer la surprise des premières secondes de l'œuvre, Lutoslavski met donc en place des stratagèmes pour créer des points de repère dans toutes ces ruptures, à commencer par le premier motif du violon que voici. S'il est inattendu la première fois, et bien que ses apparitions subites surprennent toujours, ce motif reviendra 5 fois pendant la pièce, pourtant assez courte. C'est un peu notre bouée, notre phare, la petite touche de connu dans ce monde musical dans lequel on est brinque-ballé d'une idée à l'autre sans trop savoir ce qui nous arrive. L'écoute d'une pièce axée sur les ruptures et l'inattendu est d'ailleurs particulièrement exigeante pour celui qui l'écoute, en plus de celui qui l'interprète. On peut ressortir d'une pièce rincée rien qu'à l'écoute, tant on aura été sur le qui-vive pendant toute sa durée. Mais Lutoslavski ne s'arrête pas là, car il a fait le choix de créer la rupture également dans les caractères musicaux qu'il oppose tout au long de la pièce. Là où le début est crépitant, Lutoslavski coupe net ses élans en y opposant d'autres couleurs musicales. Un extrait tout de suite. Ces changements de caractère soudains sont permis grâce à un changement d'écriture musicale. Les musiciens jouent plus ou moins vite, il y a beaucoup de place laissée au silence ou au contraire aucune, les notes sont courtes et sèches, ce qu'on appelle le jeu staccato, ou à l'inverse appuyées et très timbrées. Il joue aussi sur les nuances ou le volume sonore, qu'il soit homogène pendant un temps long ou très changeant dans une partie. Et tous ces éléments créent des images sonores contrastées au long de la pièce, reliées de temps en temps par l'appel du violon, qui nous rappelle à quelque chose de surprenant, certes, mais de connu. Il est d'ailleurs assez amusant de remarquer que dans tout ce bouillonnement, l'arrivée à des passages plus lents, quasiment lyriques, est assez reposante et finit presque par sonner un peu classique dans le tableau global. Plus de ces questions de caractère changeant, de silence et de rupture, la culture de l'inattendu dans cette pièce ne s'arrête pas là. Pour créer la surprise, Lutoslavski va aussi jouer sur le rapport entre les deux instruments et sur des jeux rythmiques basés sur l'asymétrie. Cette pièce est un véritable jeu du chat et la souris entre le violon et le piano. Si on écoute bien, les moments où ils jouent vraiment ensemble ne sont pas si fréquents, particulièrement dans les passages rapides. Souvent, ils s'alternent et s'entremêlent sans vraiment se répondre et la musique semble nous couler entre les doigts. On a l'impression d'une fuite en avant, d'une course où on n'entend pas les appuis qu'on aimerait trouver pour sentir une certaine structure. Ce côté fuyant est aussi alimenté par le fait qu'aux deux instruments, dans ces passages alternés, les notes ne sont jamais jouées vraiment seules. En fait, à chaque fois que le piano ou le violon joue une note, qu'on va appeler note réelle, il va ajouter juste avant une note très courte et très rapprochée de la deuxième. C'est ce qu'on appelle une appoggiature. Au lieu d'avoir un son net, par exemple « la », on entendra juste avant un autre son, tellement rapproché que les deux ensemble produisent un effet de frottement. Traduit en onomatopée, au lieu d'avoir uniquement le « la », on aura une sorte de « pra ». On écoute ça tout de suite. Et ces appoggiatures, ajoutées à l'alternance entre les deux instruments, créent une impression de déséquilibre, car l'ancrage rythmique est troublé par ces deux effets combinés.
Musicoscope, sur Radio Campus Angers, 103 FM.
Mais dans cette pièce, la perte de repères et la sensation de déséquilibre sont aussi dues à la nature même de la structure rythmique voulue par Lutoslavski. Il faut savoir que la musique classique occidentale est généralement basée sur des structures rythmiques stables et immuables. Pour faire simple, quand on pense à une valse, par exemple, on pense à une danse qu'on va appeler à trois temps. À savoir que pour la danser, on comptera trois pas, 1, 2 et 3, avec un appui sur le 1, et qu'on les recommencera indéfiniment en tournant. Ces trois pas, pour les musiciens, ce sont des temps ou la décomposition d'un temps. Et chaque bloc de trois pas correspondra généralement à ce qu'on appelle une mesure. La réalité de l'écriture musicale est un peu plus spécifique que ce schéma, mais vous avez comme ça l'idée globale. On sépare ainsi la musique en des morceaux avec des comptes de temps dits ternaires à trois qui tournent, comme dans la valse, et des comptes binaires avec des temps décomposés par des multiples de deux, par exemple 1, 2 ou 1, 2, 3, 4. Une fois que le compositeur a choisi sa décomposition binaire ou ternaire, il est d'usage de la garder telle qu'elle pendant toute la partie concernée du morceau, afin de créer une homogénéité rythmique. C'est sans compter sur le fait que l'homogénéité, les compositeurs contemporains n'en font pas une affaire personnelle. C'est ainsi qu'ils vont commencer à mixer des temps ternaires et des temps binaires dans une même mesure, puis même à changer de décomposition entre chaque mesure. Là où on trouvait avant des mesures à 1, 2, 3, 1, 2, 3 ou 1, 2, 1, 2, on va maintenant avoir des mesures hybrides où on mixe les deux. C'est ce qu'on appelle des mesures asymétriques. Par exemple, si j'ai une mesure à 5 temps et pas 4, j'ai le choix de la jouer avec une alternance ternaire binaire 1, 2, 3, 1, 2, ou l'inverser 1, 2, 1, 2, 3. Au niveau auditif, ce qui change, c'est l'endroit où sont placés les appuis, qui ne sont plus réguliers, mais bien irréguliers. On pourrait comparer les appuis réguliers à une marche sur deux jambes saines, et les appuis irréguliers, comme la marche de quelqu'un qui boite avec un appui long, 1, 2, 3, et un court, 1, 2. Et c'est ce que fait Lutoslavski ici, où il choisit, en plus, de changer de décomposition à chaque mesure. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Et maintenant, la même chose, sans compter. Cette asymétrie dans la mesure et surtout les changements de structure permanents créent eux aussi un effet de surprise dans le fait qu'on ne sait plus vraiment où sont les temps forts et faibles dans la musique, contrairement au 1, 2, 3 d'une valse. Il faut quand même noter que Lutoslavski utilise également des mesures aux structures classiques dans cette pièce, mais qu'il les détourne en demandant aux interprètes de placer des accents sur des temps faibles, ce qui trouble nos habitudes d'écoute et crée l'étonnement. Il est important de préciser également que ces procédés de mesure asymétriques n'ont pas été inventés par les compositeurs contemporains. Là où en Occident nous avons un mal fou à sortir d'une mesure binaire ou ternaire, la musique traditionnelle africaine est par exemple historiquement bourrée de mesures asymétriques, sans que cela pose le moindre problème. La musique occidentale a d'ailleurs beaucoup évolué grâce à l'ouverture sur le monde et à l'intérêt pour d'autres cultures que la sienne. Nous arrivons maintenant déjà au terme de notre émission d'aujourd'hui qui, j'espère, vous aura plu. Je ne peux que vous inviter à chercher à présent les ruptures, les changements de caractère et l'asymétrie rythmique dans la musique que vous écouterez. Ils sont plus présents qu'on ne le pense et particulièrement dans certains types de musique contemporaine. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les précédentes sur le site de Radio Campus Angers, sur la page de l'article dédié. Vous y trouverez également les références de cet épisode et un espace de commentaires si vous le souhaitez. Merci à Étienne et Hugo pour leur aide à la technique et à la réflexion pour l'évolution de l'émission. Nous nous retrouvons, quant à nous, le lundi 6 novembre à 16h30 pour une première émission dédiée à la danse dans la musique contemporaine. Nous écoutons maintenant Subito de Witold Lutoslavski, interprété, comme tous les extraits aujourd'hui, par Ryu Goto, avec quelques mots de l'invention de Paul Éluard. Bonne écoute et à très bientôt. La droite laisse couler du sable. Toutes les transformations sont possibles. Loin, le soleil aiguise sur les pierres sa hâte d'en finir. La description du paysage importe peu, tout juste l'agréable durée des moissons. Clair, avec mes deux yeux, comme l'eau et le feu. Quel est le rôle de la racine? Le désespoir a rompu tous ses liens et porte à la tête les mains. 1, 7, 1, 4, 1, 2, 1, 1.
vous écoutiez Musicoscope. Retrouvez-nous en direct les premiers et troisièmes lundis du mois à 16h30 sur Radio Campus Angers 103 FM ou en replay sur votre plateforme de podcast préférée.